Alfa. Tempestade 2.1. O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1. Olá a todos, il est 14h03 et vous êtes sur Radio Alpha pour Tempestade 2.1, l'émission lusophone de l'association Cap Magellan. Laura et Liliana sont de retour, comment ça va?
Ça va, super, et vous?
Pareil, trop bien.
Ça va très bien, on a du soleil hein, en tout cas pour l'instant, apparemment à Monaco il pleut, mais ici pour l'instant il y a du soleil. Et notre experte Anna Sarah sera avec nous aujourd'hui, elle présentera Panula Maybellum Weekend d'ici 30 minutes, elle arrive, vous en faites pas. Et au programme aujourd'hui, culture, musique et sport, puisque nous recevons le TikToker Valentin Football, il sera avec nous à partir de 15h. En tout cas, restez avec nous pour en savoir plus, on en parle au moment de l'interview à partir de 14h45. Et en attendant, je vous laisse avec une musique sortie hier, c'est Release the Pressure de Calvin Harris et Casabian. C'est le moment de l'événement de la semaine sur Tempestade de Sponton et j'ai deux événements à vous présenter. Donc samedi dernier, Liliana a assisté à la pièce Saudade ici et là-bas à Champigny-sur-Marne. Pour rappel, c'est une pièce musicale écrite par Isabelle Ribeiro et mise en scène par Alexis Dessault. On retrouve Isabelle Ribeiro, Danninger Dos Santos et Simon Quintana. Une pièce qui fait globalement l'unanimité, qui fait du bien et qui fait remonter la saudade en nous, tout en nous rappelant l'importance des liens familiaux. Liliana, tu as rédigé un article qui est disponible sur le site de Cap Magellan. Mais dis-nous, pour Tempestade de Schmoton, qu'en as-tu pensé?
Alors, perso, j'ai beaucoup apprécié la pièce. C'est un spectacle très touchant qui parle de l'émigration portugaise, mais aussi plus largement de la famille, des souvenirs et de ce que l'on garde de nos origines. L'histoire autour de la vente de la maison de famille est très simple, mais elle fait remonter beaucoup d'émotions et de souvenirs dans l'histoire. Et on comprend bien le sentiment de saudade, cette nostalgie douce et douloureuse à la fois transmise de façon très très simple. Et du coup, la musique et le chant apportent une vraie profondeur à la pièce. Ça permet d'exprimer ce que les personnages n'arrivent pas toujours à dire avec les mots. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé une chose. C'est qu'au Portugal, c'est vrai que la musique, qu'elle soit du fado, des chants populaires ou des chansons contemporaines, elle a toujours été un refuge face à la dureté de la vie. Un art qui est accessible à toutes et à tous pour dire la tristesse, l'exil, la pauvreté, mais aussi la dignité. Et en plus, le fait que la pièce soit jouée à Champigny, c'était très symbolique par rapport à l'histoire de l'immigration portugaise et encore plus au lendemain de la journée de la Saudade. J'ai trouvé que les comédiens étaient très justes et sincères. Et c'est une pièce très émouvante, actuelle, qui peut parler à tout le monde, même à ceux qui n'ont pas vécu l'exil ou l'immigration. Et elle invite à réfléchir à la mémoire, à la transmission et à l'importance de nos racines.
Merci Liana et encore bravo à Danninger, Simon Quintana et surtout Isabelle Ribeiro pour cette belle pièce. N'hésitez pas à aller sur le site de Cap-Majan pour lire l'article que Liana a écrit en entier. Pour le deuxième événement, vous le savez, ce week-end a lieu le second tour des élections présidentielles portugaises. En tant que Portugais de France, vous pouvez voter dans votre consulat entre 8h et 19h aujourd'hui et demain en vous munissant de votre document d'identité. Pour rappel, 16 consulats sont ouverts au vote en France, parmi lesquels Bordeaux, Strasbourg, Lyon, Marseille, Paris, Ajaccio, Clermont-Ferrand, Lille, Montpellier, Nice, Orléans, etc. Pour savoir si vous êtes bien recensé et quel est votre lieu de vote, n'oubliez pas de rentrer votre numéro d'identification civile et votre date de naissance sur le site recensement.pt. Cela vous évitera de vous déplacer pour rien et vous permettra de vous rendre au bon endroit pour exercer votre droit et devoir citoyen. N'oubliez pas que si vous avez la nationalité portugaise, votre vote compte et que vous êtes légitime comme n'importe quel Portugais. Je pense que c'est important de le rappeler. Et Anna Sarah nous a partagé, elle arrive, mais je vous jure qu'elle voulait absolument le dire, donc je le dis pour elle, une initiative. C'est une initiative citoyenne et profondément humaine mise en place par La Lusitane, c'est un magasin et restaurateur-traiteur portugais situé à Creil, donc dans l'Oise, fondé par Fernando Gomes et Carla Gomes. À l'occasion du coup de ce second tour, La Lusitane a décidé de mettre gratuitement à disposition un bus à destination du consulat du Portugal afin de permettre aux habitants de l'Oise d'aller voter. C'est une initiative qui s'adresse en particulier aux personnes âgées, aux personnes isolées et à celles qui n'ont pas les moyens de se déplacer, mais aussi à toutes celles et ceux qui souhaitent accomplir leur devoir citoyen dans un cadre convivial et solidaire. Et parce que la citoyenneté peut aussi rimer avec partage, un repas sera offert aux participants. C'est donc un moment de convivialité, d'échange et de lien social autour d'un geste essentiel, le vote. C'est une très belle démonstration de ce que peuvent faire les initiatives locales quand elles sont portées par des valeurs de solidarité, d'engagement et de responsabilité citoyenne. Donc un grand bravo à La Lusitane pour cet engagement au service de la démocratie et du vivre ensemble. C'est vrai que ça serait bien que ça existe un peu partout en France, ce genre d'initiative. Hein.
Ça, c'est sûr. Hein.
Vraiment. En tout cas, voilà, n'oubliez pas d'aller voter aujourd'hui ou demain si vous êtes à jour dans votre nationalité portugaise, que vous avez vos papiers à jour. Et d'ici 5 minutes, Liana nous présentera Capital Creative, on change un peu de registre. Mais avant cela, je vous propose d'écouter notre chère Mariana Portugal chanter. Tout de suite, c'est Filha das Ervas, interprétée par Mariana Portugal, avec Manuel Miranda à la guitare portugaise et Dominique à la guitare de fado. Vous êtes toujours sur Radio Alpha pour Themestadt de Spontan. Tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Capital Creative avec Liana. Alors, quel aspect du marché de l'art nous présentes-tu aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait de plus en plus de bruit dans les musées européens. Est-ce que vous auriez une idée ?
Est-ce qu'on a une idée ? Un sujet qui fait de plus en plus de bruit dans les musées européens ? Non, franchement, je sais pas.
Eh bien, je vais vous dire ça tout de suite. En fait, c'est la restitution des œuvres spoliées. En fait, ce mercredi 28 janvier, le Sénat a adopté le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, d'une appropriation illicite, en ont été privés et dont beaucoup sont conservés dans les collections nationales françaises. Et cette loi cadre, portée par le ministère de la Culture, a un objectif affiché de réparer à la fois matériellement et symboliquement. C'est une étape majeure parce que pour la première fois, on pose un cadre général pour reconnaître officiellement les spoliations historiques, notamment celles liées au contexte colonial. Jusqu'ici, chaque restitution devait passer par une loi spécifique. C'était un processus long, très politique, parfois arbitraire. Et avec cette nouvelle loi, la France veut simplifier les choses et éviter ces lois d'exception à répétition. Concrètement, le texte prévoit que chaque bien revendiqué fasse l'objet d'une enquête approfondie sur sa provenance pour une période allant de 1815 à 1872. En gros, c'est de la fin des guerres napoléoniennes jusqu'aux grandes conventions internationales sur le patrimoine. Et pour encadrer ça, une commission nationale permanente avec des experts indépendants, appuyée des comités scientifiques bilatéraux avec les pays demandeurs, devra examiner chaque demande. Et ces avis seront publics, une manière d'encadrer mais aussi de rendre visible le processus. Bon, si la loi a été votée à l'unanimité au Sénat, elle doit encore passer par le vote de l'Assemblée nationale et ça, c'est une toute autre affaire. Mais bon, en fait, c'est quoi la spoliation ? Eh bien, c'est pas seulement le vol au sens classique, c'est aussi la confiscation dans un rapport de force pendant une colonisation, lors d'expéditions militaires, sous la contrainte, la violence ou l'abus de pouvoir. Et ça concerne des œuvres d'art, bien sûr, mais aussi des objets rituels, ethnographiques, et parfois même des restes humains, c'est-à-dire des reliques, aujourd'hui conservées dans les musées européens. Le Portugal a mis fin à son empire colonial avec la révolution des œillets, il y a un peu plus de 50 ans. Et ces dernières années, le pays a aussi commencé à s'interroger sur la décolonisation de ses musées. Et l'idée, c'est d'examiner la restitution d'objets culturels provenant des anciennes colonies, mais le chemin est encore hésitant. En 2021, une proposition de loi sur la restitution a été rejetée, mais fin 2022, le ministère de la Culture avait toutefois lancé un inventaire des œuvres potentiellement restituables. Un premier pas qui était encore très prudent. En gros, ce sujet fait débat parce que certains craignent que le pays d'origine ne puisse pas conserver ses objets dans de bonnes conditions. D'autres redoutent un effet domino qui viderait les musées européens. Et il y a un débat plus profond, comme est-ce que c'est un acte de justice historique ou une remise en cause du rôle universel des musées. Pendant ce temps, ailleurs en Europe, les restitutions avancent. La France a rendu des œuvres au Bénin et au Sénat, l'Allemagne au Nigeria et au Bénin, et les Pays-Bas ont restitué 119 bronzes au Bénin en 2025. Donc le débat reste tout de même ouvert. Aujourd'hui, tout le monde semble d'accord sur ce point. Nos collections doivent être, sont héritées de l'histoire coloniale. Mais ce qui fait débat, c'est ça. Décoloniser les musées, oui, mais comment ? Est-ce qu'on doit restituer systématiquement ? Est-ce qu'on pourrait partager les œuvres ? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt repenser le reçu au lieu de déplacer les objets ? et surtout à qui appartiennent vraiment le patrimoine culturel. Et vous, ici, qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, j'avoue que j'ai pas trop d'avis, dans le sens où je pense que je suis pas aussi assez renseignée, enfin, par rapport à toi, je suis pas très renseignée sur le sujet, etc. Après, je pense que, enfin, moi, j'ai la vision que j'ai depuis que je suis petite du musée, c'est la vision universelle dont tu parlais. Mmh. Pour moi, c'était logique, en allant dans un musée, d'avoir des œuvres de tout du monde entier, pas que de la France. Mais c'est vrai que, enfin, ça, dans ces cas-là, il faudrait que tous les musées aient des œuvres du monde entier, tu vois.
Moi, je pense que c'est assez compliqué parce que c'est vrai que d'un côté, on doit décoloniser nos collections et bah, ces œuvres, elles ne nous appartiennent pas. Mais il y a des œuvres qui, par exemple, tu vois, si on restituait tout et qu'on... Enfin, je me demande si peut-être peu à peu, on n'oublierait pas en fait, ce passé colonial et on ne ferait pas un déni, tu vois, de l'histoire. Et je pense que ça serait potentiellement dangereux. Mmh. Aussi dans ce sens-là.
Il faudrait pas en venir au négationnisme, quoi.
Ouais.
Voilà.
Laura, t'en penses quoi, toi ?
Non, je suis d'accord. Après, peut-être qu'il faudrait, je sais pas, réformer tout ça pour, en fait, qu'on parle quand même de cette histoire sans forcément garder toutes les œuvres, parce que c'est vrai que, bon, après, moi non plus, hein, j'ai pas d'idées spécifiques ou d'exemples, mais c'est vrai que je pense qu'on a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément à nous, que ce soit en France ou au Portugal.
Ouais.
Et du coup, bah, ce serait une forme de justice quand même de les rendre. Après, je pense qu'il faut aussi s'adapter à notre époque, quoi. Ouais. On ne peut pas tout... C'est un peu compliqué.
Oui,
c'est sûr.
C'est un sacré sujet.
Et du coup, Anna qui est arrivée, est-ce que tu as un avis, toi, sur cette question ?
C'est vrai que je suis plutôt d'accord avec vous deux, où il y a ce côté de faire justice et ce côté où il faut s'adapter à l'époque à laquelle nous vivons. Et aussi, je reviens sur ce que tu disais, Julie, sur l'image qu'on a du musée, où en fait, on s'attend à découvrir plusieurs œuvres qui représentent chaque partie du monde, mais après, c'est à voir comment elles sont mises en avant et comment aussi, au sein des musées, on explique, on raconte l'histoire de ses œuvres.
Ouais,
je pense qu'il
ça.
Y a ce côté-là aussi qui peut être important.
Ouais, et puis en plus, même quand tu vas voir des expos ou d'autres musées, tu vois que parfois elles sont empruntées et qu'elles bougent de musée en musée. Ouais. Donc là, si on dit par exemple, je sais pas, que cette œuvre a été prêtée par le Bénin à la France, peut-être que ça aurait un autre impact que le fait qu'on l'ait volée en soi.
Ouais, bah, en contexte.
Ouais, en soi, je suis d'accord. Mais je pense que c'est surtout qu'elles sont dans les collections nationales. C'est-à-dire qu'elles appartiennent pas à la France, mais elles ont été volées. Et elles font partie des collections comme si c'était les nôtres. Mmh. Et c'est ça qui est très, très complexe et qui est remis en question aujourd'hui.
C'est sûr.
Créer des collections spéciales vol. Des collections volées.
Bon, je pense qu'on n'aura pas la solution aujourd'hui, en tout cas, sur Themestade de Ponton. Mais si vous avez un avis sur ce sujet, n'hésitez pas aussi à nous le donner sur par nos réseaux sociaux. En tout cas, merci Liana d'avoir présenté ce sujet. Je pense qu'on était beaucoup à peu connaître ou méconnaître la spoliation. Donc, c'est super intéressant. Et restez avec nous d'ici 5 minutes. Donc, Anna Sara fait le tour de l'actualité ibéro-américaine dans Panorama Ibero-Américain. On change totalement de sujet. Et tout de suite, je vous propose d'écouter le single que David Carrera nous avait promis lors de l'interview qu'on a fait avec lui, qui est dispo en podcast partout. C'est Monte, c'est sorti hier.
Vejo as gotas a caem no vidro. Nem reparei que estava a chover. Amor, nós vamos a 120, numa altura em que não é suposto ir a correr. Não temos culpa, temos os dois pressa. Quando aquilo que interessa é o caminho. Há horas perdidos na conversa, sem percebermos que é a pressa que é o inimigo. Qual de nós dois vai pagar a multa? O carro é meu, mas a conversa é tua. De nós dois vai pagar a multa, entre cara a cara e assumir a culpa. Saudades de quando o tempo era nosso, mas às tantas a velocidade muda. Qual de nós dois vai pagar a multa, entre cara a cara e assumir a culpa. Não há gotas a cair no vidro. Nem reparei que parou de chover. Amor, quando eu não ia sentir vindo, a paisagem era bonita e dava para ver. Dava para ver o que hoje é só lembrança. Dava para ver casas iam para sempre. Às vezes basta baixar a mudança, porque o limite é o mesmo e nós estamos diferentes. Qual de nós dois vai pagar a multa? O carro é meu, mas a conversa é tua. Qual de nós dois vai pagar a multa? Entregar a carta e assumir a culpa. Saudades de quando o tempo era nosso, mas às tantas a velocidade muda. Qual de nós dois vai pagar a multa? Entregar a carta e assumir a culpa. Não dá para dividir a culpa, dividir a multa e avançar. Dividir a culpa. Qual de nós dois vai pagar a multa? O carro é meu, mas a conversa é tua. Qual de nós dois vai pagar a multa? Entregar a carta e assumir a culpa. Saudades de quando o tempo era nosso, mas às tantas a velocidade mudada. Qual de nós dois vai pagar a multa? Entregar a carta e assumir a culpa.
Team Chat de Sponton sur Radio Alpha, vous arrivez à temps pour Panorama Ibero-American avec Anna Sara. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'on a raté ce mois-ci?
Alors, comme chaque mois, on prend le temps de décrypter l'actualité de l'espace ibéro-américain, cet espace qui relie l'Europe du Sud à l'Amérique latine, par l'histoire, les langues, la culture, mais aussi par des enjeux politiques et sociaux très actuels. L'objectif ici est simple, comprendre ce qui se passe, remettre les événements en contexte et donner des clés de lecture à celles et ceux qui découvrent ces sujets. Ce début d'année est particulièrement dense. Plusieurs pays traversent des moments importants, parfois difficiles, parfois symboliques, et ensemble, ils dessinent le portrait d'une région en mouvement. On commence en Europe ibérique avec l'Espagne. Au mois de janvier, le pays a été marqué par un grave accident ferroviaire survenu sur une ligne à grande vitesse. Deux trains sont entrés en collision, provoquant de grandes victimes et un choc profond dans l'opinion publique. Mais pourquoi cet événement a-t-il autant marqué l'Espagne ? Parce que le réseau ferroviaire espagnol est souvent présenté comme l'un des plus modernes et les plus sûrs d'Europe. Le train à grande vitesse y est un symbole de modernité, de mobilité et de transition écologique. Ce drame a donc remis en question une forme de confiance collective dans les infrastructures. Très rapidement, un débat s'est ouvert sur les conditions de sécurité, sur la gestion des réseaux de transport et notamment envers les responsabilités techniques. Les autorités ont annoncé des enquêtes pour comprendre précisément les causes de l'accident. Au-delà du drame humain, cet événement rappelle que même les systèmes les plus performants restent vulnérables, notamment dans un contexte de pression accrue sur les transports et de conditions climatiques de plus en plus imprévisibles. En traversant la frontière, le Portugal vit lui aussi une période importante. Sur le plan politique, le pays se prépare à un second tour de l'élection présidentielle qui a lieu ce week-end. Il n'y a donc pas encore de résultats à ce stade, mais l'enjeu institutionnel est réel. Rappelons que le président portugais n'exerce pas le pouvoir exécutif au quotidien. Son rôle est avant tout constitutionnel et institutionnel. Il veille au respect des institutions, peut dissoudre le Parlement dans certaines conditions et représente une figure de stabilité dans la vie politique du pays. Ce second tour oppose deux candidats arrivés en tête au premier tour, issus de formations politiques différentes. Les électeurs sont donc appelés à choisir entre deux options distinctes, dans un scrutin suivi de près aussi bien au Portugal qu'au sein de la diaspora. Cette élection se déroule par ailleurs dans un contexte humain particulier. Ces dernières semaines, le Portugal a été touché par une forte tempête qui a causé des dégâts importants dans plusieurs régions. La région de Leiria, au centre du pays, a été particulièrement affectée. Inondations, routes coupées, habitations endommagées, coupures d'électricité, ces événements rappellent que le Portugal, comme une grande partie de l'Europe du Sud, est fortement exposé aux phénomènes climatiques extrêmes. Pour de nombreuses familles, ces tempêtes ont un impact très concret sur le quotidien et renforce le sentiment de vulnérabilité au dérèglement climatique. D'ailleurs, je vous invite à contribuer à différentes cagnottes qui ont été mises en place pour pouvoir soutenir la reconstruction du pays ou pouvoir apporter notamment de l'aide alimentaire dans les régions qui ont été touchées. Donc, je vous invite sur le site de Radio Alpha.
Ouais.
Donc, si tu veux, Julie, je te laisse prendre le relais
Radio Alpha a repartagé pas mal la cagnotte de Tote Junge France. Je vous invite vraiment à, si vous voulez donner, il faut vraiment donner à des gens, à des institutions, des associations qui savent le faire, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui veulent récupérer des dons, que ce soit monétaires ou physiques, et qui souvent savent pas comment procéder. Taux de Jaunes France, et il y a l'association aussi Des Ailes pour le Portugal, ce sont des associations sérieuses qui ont l'habitude de faire ça, qui travaillent dans la solidarité et qui donc peuvent vraiment aider concrètement au Portugal. Donc si vous voulez donner, que ce soit de façon monétaire ou physique, des dons alimentaires ou même de vêtements ou autres, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces deux associations-là. Et pour Taux de Jaunes France, toutes les informations sont sur le site de Radio Alpha que je vous invite à consulter.
Merci Julie. On va maintenant traverser l'Atlantique, direction le Venezuela. Alors je ne vais pas entrer aujourd'hui dans tous les détails, car j'ai déjà consacré une rubrique entière au mois de janvier sur la situation vénézuélienne. Vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast sur toutes les plateformes, et notamment sur le site de Radio Alpha. Mais pour situer le contexte, rappelons que depuis la capture de Nicolas Maduro au début d'année, le pays traverse une phase de transition totalement inédite. Ces dernières semaines ont été marquées par plusieurs annonces importantes. Une loi d'amnistie générale en discussion à l'Assemblée nationale, des gestes symboliques concernant d'anciens lieux de détention politique et une volonté affichée de relancer l'économie, notamment à travers le secteur pétrolier. Le Venezuela est aujourd'hui engagé dans un processus fragile, observé de près par la communauté internationale. Décisions prises maintenant auront des conséquences durables, non seulement pour le pays, mais aussi pour l'équilibre régional. Sa situation a des répercussions directes en Colombie, pays voisin du Venezuela, et acteur central de l'Amérique latine. Historiquement, la Colombie entretient des relations étroites avec les États-Unis, en particulier sur les questions de sécurité et de lutte contre le narcotrafic. Toutefois, ces relations ont connu des tensions ces derniers mois, notamment autour des méthodes employées et des priorités politiques. Après l'opération américaine au Venezuela, les États-Unis ont renforcé leur présence et leur coopération dans la région. Dans ce contexte, Bogota et Washington ont récemment annoncé une coopération accrue contre le narcotrafic. Cette annonce a eu un effet immédiat sur le terrain. Le principal cartel colombien, le Clan del Golfo, a décidé de suspendre les pourparlers de paix qui étaient en cours. Ce choix illustre la difficulté pour la Colombie de maintenir un équilibre entre le dialogue avec les groupes armés et la fermeté sécuritaire sous pression nationale et internationale. La Colombie se retrouve ainsi dans une position délicate, entre la recherche de stabilité intérieure, les attentes de sa population et son rôle stratégique dans la région. Pour terminer cette chronique sur une note différente, parlons de culture, un autre pilier fondamental de notre espace ibéro-américain. À Porto Rico, l'artiste Bad Bunny a marqué l'actualité ces dernières semaines. Il a remporté un Grammy majeur pour son album, qui est pour le coup uniquement et entièrement en espagnol. Il s'est produit lors du show de la mi-temps du Super Bowl, l'un des événements médiatiques les plus regardés au monde. Ce succès est avant tout culturel. Il montre la place croissante de la culture latino-américaine dans l'espace médiatique international. Chanter en espagnol, mettre en avant une identité portoricaine et toucher un public mondial est devenu possible à grande échelle, ce qui reflète une évolution profonde des industries culturelles et des représentations. Pour conclure, ce début d'année nous montre un espace ibéro-américain en transformation constante. Société européenne confrontée à des enjeux politiques et climatiques importants, une Amérique latine traversée par des transitions politiques sensibles et des équilibres régionaux fragiles, et une culture qui continue de rayonner bien au-delà de ses frontières. C'est tout le sens de Panorama Iberoamericano, comprendre, contextualiser et relier les événements entre eux.
Merci beaucoup Anna. Vous avez vu la victoire du coup de Bad Bunny, franchement c'était un beau moment je trouve. Hein.
Bien sûr. Et dimanche.
C'est totalement mérité. Ah oui.
Et oui.
C'est tellement mérité, je trouve. Ouais. Franchement, Et d'ailleurs, Antonin a déjà consacré une rubrique entière à Bad Bunny que je vous invite à écouter sur toutes les plateformes de streaming et sur le site de Radio Alpha, les podcasts Tempestade de Chanton. Mais c'est vraiment un très bel artiste. C'est tellement dommage qu'il soit pas la lusophone. Je sais pas ce que vous en pensez, mais.
C'est cette portugais.
Hein. Mais on peut pas tout avoir. Non,
c'est dommage, c'est dommage. Mais bon, c'est vraiment une très belle victoire. On est très contents pour lui. Et merci pour ce tour de l'actualité ibéro-américaine. En tout cas, restez avec nous d'ici 5 minutes. Laura nous présente Arte Yondesh. Mais avant cela, on écoute le dernier single de Nena, Guardei ton lugar.
Se quiseres voltar. Sabes onde vivo? Deixo a chave no tapete. Dormes cá comigo. Se quiseres passar amanhã seguinte, dai sua chave no tapete, dormes cá comigo. Viemos de caminhos que não se cruzaram, sonhos de além que se encontraram. É difícil descrever, que as palavras nem explicam mais. Tão diferentes, mas no fundo tão iguais. Então, como se nada fosse, manda fora o calendário. O São Valentim é quando tu quiser. Brinda nós dois mais uma vez. Já vivemos muito, esse muito acaba pouco. Só não pensas para esperar o que podemos viver hoje. É que já vivemos muito, esse muito acaba pouco. Se for para eu te amar, eu vou te amar o ano todo. E este por sorte eu não esperava. Bateu forte com a tua garganta. E com esse frio lá fora, eu prefiro ficar, pois é só tu que aquece o meu lar. Então, como se nada fosse, manda fora o calendário. O São Valentim é quando tu quiser. Brinda nós dois mais uma vez. Já vivemos muito, esse muito acaba pouco. Só não pensas para esperar o que podemos viver hoje. É que já vivemos muito, esse muito acaba pouco. Se for para eu te amar, eu vou te amar o ano todo. Já vivemos muito, esse muito acaba pouco. Só não pensas para esperar o que podemos viver hoje. É que já vivemos muito. Se for para te amar, eu vou te amar o ano todo.
Está a ouvir o Tempestade 2.1 na rádio que nos liga. Estamos consigo até às 4 e chegou o tempo para Arte em Ondas. Então, o que apresentas hoje, Laura?
Então hoje, para começar esta rubrica, vi uma boa notícia passar esta semana, não sei se também a viram. Lisboa foi eleita a terceira melhor cidade do mundo para a arte urbana.
Ah, eu vi Évora para a capital da cultura, mas não tinha visto
também
Lisboa.
Não, então para a arte urbana é Lisboa e é o Luís de Português de França que mandou, e a minha mãe também, a notícia.
Toda a gente.
Obrigada. Mas isso já sabiam, porque não paro de o repetir desde o início, não é?
Sim,
então, é. Hoje, nas cidades lusófonas, os murais são como notas do século XXI. Em vez de bronze, temos cores, histórias e vozes vivas nas paredes. Eles celebram heróis populares, lutam por causas sociais e contam a história das ruas, muitas vezes com a mesma intensidade que um gol decisivo. Hoje no Tempestade 2.1 falamos de desporto, então vamos ligar arte urbana e futebol. Porque poucas histórias ocupam tanto o espaço urbano como o futebol. Então o futebol no mundo lusófono não é só um jogo, é memória, é identidade, é um mito popular. E é exatamente isso que a street art vem buscar. Quando caminhamos por cidades como Lisboa, Rio de Janeiro, São Paulo, Luanda ou Maputo, encontramos rostos que conhecemos imediatamente. Pelé, Eusébio, Ronaldo. Eles aparecem pintados como santos, quase figuras religiosas. O mural transforma o jogador em mito urbano. Não é um retrato neutro, é uma narrativa. A rua escolhe quem merece ser eternizado. E isso é interessante porque o mural não pede autorização. Ele nasce da paixão popular, da memória coletiva. É uma forma de dizer: este jogador fez parte da nossa vida. Porque muitas vezes o mural não repete o discurso oficial. Ele exagera, romantiza, corrige ou até contesta. E do mito individual passamos naturalmente ao mito coletivo. Se o jogador vira ícone, o clube vira bandeira. Cores, escudos, símbolos, datas históricas aparecem nas paredes como uma extensão do amor ao clube, quase como se o tifo saísse do estádio e se espalhasse pela cidade. No universo lusófono, os clubes têm identidades visuais muito fortes, como Benfica, o Sporting ou Porto, e esses símbolos ultrapassam o futebol e entram na cultura urbana. Um exemplo interessante acontece no Estádio da Luz, na verdade é o único que tive a oportunidade de visitar, onde em zonas de passagem, como túneis e acessos, encontramos obras que transformam um espaço funcional num espaço simbólico. O torcedor já não entra apenas num estádio, entra numa narrativa visual e a parede começa a preparar emocionalmente o jogo, antes mesmo do apito inicial. Já viram esta obra no túnel do Estádio da Luz, por exemplo?
Eu nunca fui no Estádio da Luz, mas...
Não, ninguém?
Eu também não.
Acho que já vi no túnel...
Sim, mesmo no túnel ao entrar e ao sair também. É um mural enorme, há adeptos, há a águia, há um grafite também, há muitas coisas. E sempre, mesmo antes de gostar de arte urbana, sempre gostei disso. Já é uma atmosfera especial. Mas aqui existe uma diferença importante. Uma coisa é o mural espontâneo, outra é o mural institucional, autorizado, encomendado, e é exatamente nessa fronteira que o street art ligado ao futebol se torna ainda mais interessante. Se dentro do estádio o discurso é controlado, fora dele, nos arredores, a cidade fala mais livremente. As paredes à volta dos estádios, os bares, estações de metro, túneis, fachadas, são territórios de expressão popular, onde o futebol encontra a vida cotidiana. E aqui entra um exemplo muito atual. O artista Sefer Wake, já o conhecem, claro, sim, já falei dele muitas vezes, que é natural da linha de Sintra, criou recentemente uma obra ligada, é uma encomenda do clube do Estrela da Amadora. O trabalho do Sefer explora a fronteira entre ficção e realidade, entre memória pessoal e identidade coletiva, e a sua obra não ilustra apenas o futebol, ela cria uma atmosfera, uma narrativa visual que liga o clube ao território, às pessoas e à cidade. Não é um mural para turistas, é um mural para quem vive ali, e isso é fundamental, porque o street art ligado ao futebol não existe só para ser bonito, existe para marcar pertença. A parede torna-se um ponto de encontro simbólico, um lugar de memória viva, mas nem sempre essa liberdade dura muito tempo. E, aliás, Julie, já falaste do teu amigo Grasson?
Yeah, exatamente, ele fez muitas obras sobre jogadores de futebol. Nomeadamente, eu sei que uma das últimas foi o João Neves, já fez o Cristiano Ronaldo, obviamente, nomeadamente durante o seu calendário de l'Avent, 25 de Abril. E eu vi, acabei de ver, mesmo ontem, hoje ou ontem, ele fez um teaser do clássico entre Marseille e Paris, que vai ocorrer já não sei quando.
Vai ser no domingo.
Provavelmente deve ser amanhã. E ele fez o teaser em parceria com a revista Ligue 1 Show. E é incrível o teaser, adorei. Vocês têm que ver. Basta só ir seguir Bagless nas redes sociais e vão encontrar logo.
Sim, ele pinta retratos e é muito importante essa visibilidade. E quando a arte urbana ganha visibilidade, ela incomoda ou então passa a interessar. Alguns murais são apagados por serem considerados demasiado políticos ou críticos. Outros são recuperados, suavizados, integrados numa estratégia de comunicação. Clubes, marcas e patrocinadores perceberam a força estética do street art e começaram já a usá-la, como vimos com o Gasson. O problema não é o mural ser encomendado, o problema é quando a estética urbana é usada sem a sua alma. Esse debate é muito parecido com, aliás, o debate do jornalismo desportivo. Liberdade contra acesso, independência contra proximidade ao poder. Isso leva a uma pergunta forte. Quem hoje tem mais liberdade para contar o futebol ou a arte como são? No fim, do mito à parede, do estádio à rua, o futebol lusófono vive uma verdadeira disputa pelo sentido. Uma disputa visual, simbólica e cultural, onde cada parede se torna um espaço de memória e de identidade. O street art mostra que o futebol não pertence apenas às instituições, mas também às pessoas que o vivem todos os dias, nos bairros, nas cidades, nos caminhos para o estádio. E talvez seja por isso que essas imagens nos tocam tanto, porque nelas o futebol volta a ser simples, popular e profundamente humano.
Muito obrigada, Laura. E continuamos no mundo do desporto já a seguir, porque estaremos em entrevista com o Barão Tão Futebol, que está quase a chegar. Mas primeiro deixo-vos ouvir uma nova colaboração lusófona, Essência, de Agir e Missy Miles.
Sorriso na cara, mas eu sei que no fundo choras, porque eu vejo muito mais do que tu mostras. Quando carregas o peso do mundo às costas, tanta pergunta sem resposta. Então chora no meu colo, babe. Relaxa, fica calma. Cabeça na almofada, mesmo quando tô na estrada, é à distância de uma call, babe. Então chora no meu colo, babe. Relaxa, fica calma. Cabeça na almofada, e mesmo quando tô na estrada, é à distância de uma call, babe. Yeah, yeah. Então liga pro meu fone, yeah. Quero ouvir a tua voz, yeah. Quando o mundo vem só testa, e no fundo tu só testa. É quem não planta e só colhe todos os frutos dessa tua inocência. Eles só querem o corpo sem a essência. Eles não querem saber do essencial. Chamar-te princesa é fácil, mas não te traz certezas amanhã. Diz-me quem é cá está quando faz frio. Eles querem o teu corpo sem a menção. Deste-lhes o prémio e nem uma menção. Tudo por um pouco de atenção. Eu só te vim dar uma benção. Sorriso na cara, mas eu sei que no fundo chora, porque eu vejo muito mais do que tu mostras. Quando carregas o peso do mundo às costas, tanta pergunta sem resposta. Então chora no meu colo, babe. Relaxa, fica calma. Cabeça na almofada, mesmo quando tô na estrada, é à distância de uma call, babe. Então chora no meu colo, babe. Relaxa, fica calma. Cabeça na almofada, e mesmo quando tô na estrada, é à distância de uma call, babe.
Sabia, sarique, caxinguele, maracajá, voo de mate, tapere, saci, perere, boitatá. Quando os bichos e seres saírem de dentro da mata fechada, se ouviram gritos da noite, estalo de açoite pela madrugada. Sabia, sarique, caxinguele, maracajá, voo de mate, tapere, saci, perere, boitatá.
Vous êtes sur Radio Alpha pour l'émission Tempestade 2.1. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Vous arrivez à temps pour l'interview avec Valentin Football. Comment ça va, Valentin?
Bah, ça va super, merci.
On est très content de te recevoir aujourd'hui.
C'est un plaisir.
Première radio, non?
Première radio.
C'est pas vrai?
Ouais, c'est vrai.
Incroyable. Bah écoute, on est trop content que ce soit avec nous.
Yes.
Et donc, Valentin, tu es créateur de contenu sur les réseaux sociaux, spécialisé dans le foot. Tu donnes des conseils pour chaque poste. Tu croises et interviews de grands footballeurs et tu en fais aussi de l'humour. Ça va, je t'ai bien décrit?
C'est ça, en gros.
Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur les réseaux sociaux d'abord?
Bah, tout simplement parce que moi, je passais ma vie au foot, tous les jours au foot, 24 heures sur 24 au foot. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire des petites vidéos pour donner de la motivation aux gens, etc. Donc, j'ai commencé dans mon premier club de foot. Et après, petit à petit, j'ai vu que ça fonctionné beaucoup. J'ai pris 30 000 abonnés en un jour. Donc, wow. Mon télé buggé, j'étais avec mon frère, on était un peu surpris, on s'est dit, waouh, c'est vrai que ça peut être cool de pousser. Et donc voilà, j'en ai fait ma vie. Petit à petit, ça m'a ouvert des opportunités, des portes, beaucoup de trucs sympas, des interviews avec des joueurs, etc. Donc, ouais, voilà.
Et on va en parler. Et donc, le foot, toi, c'est depuis tout petit, en fait.
Ouais, depuis que j'ai 10 ans. Depuis que j'ai 10 ans, ouais, j'ai commencé dans mon club à côté de chez moi, un peu grâce à mon frère aussi. En fait, tout ce que je fais, c'est grâce à lui, qui est là à côté de moi aussi. Ouais. Mais ouais, il a poussé mes parents à que je commence le foot, donc petit à petit, ça, on a fait son chemin.
Et pour tes vidéos, du coup, tu t'appuies sur tes propres expériences et toi-même, tu entraînes une équipe, c'est ça?
C'est ça, ouais, j'étais avec eux là, juste avant, là, donc c'est pour ça que j'ai fait vite.
Vous avez un match?
Ouais, on avait
ça
match.
Ça s'est bien passé?
Ouais, ça va plus ou moins. On avait un petit challenge, mais normalement, on est qualifié, c'est cool. Mais ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pu apprendre au foot, ça m'a créé de l'expérience. Malgré que je sois jeune, j'ai aussi pas mal d'expérience, donc c'est cool.
Et t'entraînes depuis combien de temps à peu près?
J'entraîne, ça fait 5 ans là maintenant. Ça fait 5 ans et je joue depuis que j'ai 10 ans, c'est ça.
Et du coup, cet amour pour le foot, est-ce que tu dirais qu'il est intimement lié à ta culture portugaise?
C'est vrai que ça joue beaucoup avec le Portugal parce que moi je suis un très très gros supporter du FC Porto.
Ça va pas du tout ici.
Ouais, non, je suis désolé, mais demain je prends l'avion et on va voir le match. Non, franchement, ouais, parce que ma famille au Portugal aussi m'a beaucoup poussé dans ça. Mon cousin qui était journaliste, il m'a fait kiffer Porto. J'ai kiffé Porto et je me suis dit allez, let's go, ça va aussi m'ouvrir des opportunités, le Portugal. C'est pour ça que je fais des vidéos aussi sur le ton de l'humour du Portugal. Ouais. Y a beaucoup de Portugais en France, donc c'est aussi pour ça qu'ils méritent d'être mis en avant.
Ouais, et puis il y a un peu ce cliché quand même de se dire les Portugais, le foot, c'est une religion, quoi.
C'est une religion, hein. Franchement. Moi qui visite beaucoup de pays, pour moi, le Portugal, ouais, c'est l'un des top 3 où le foot, c'est une vraie religion. Hein. Les gens, ils mangent foot, ils boivent foot, ils dorment.
Ouais, les 3 F.
C'est ça, c'est tout à fait
c'est
ça.
C'est clair. Et du coup, comme tu disais, tu as pu rencontrer de nombreux joueurs dans ta carrière.
Ouais.
Comment est-ce que tu fais pour les approcher?
Alors moi, je travaille dans une entreprise qui est ProDirect Soccer et c'est eux qui m'ouvrent toutes ces opportunités-là. Moi, je suis leur créateur de contenu, donc je m'occupe de toute la partie de contenu pour eux. Et en fait, on travaille avec les marques Adidas, Nike, Puma et autres. Et ils nous contactent directement pour voir si on ne veut pas leur envoyer un brief et faire des vidéos avec des joueurs, etc.
Ok, et donc parce que toi tu fais aussi des interviews de joueurs, ouais. Mais t'as pas de formation de journaliste?
Non, pas du tout, franchement. Moi j'ai fini mon master cette année, master dans la com, l'événementiel sportif, etc. ça s'est ouvert des portes, voilà, grâce aux réseaux sociaux. Un jour j'ai reçu un DM sur Insta, il m'a dit ouais, est-ce que tu serais intéressé, on veut te prendre en tant que créateur de contenu. Tout ça s'est fait et après j'ai eu la chance d'interviewer, mais vraiment aucune formation de journalisme, juste moi. Et Et voilà.
Une belle formation en communication quand même.
Ouais,
ça
c'est
aide
important,
forcément.
Bien sûr. Mais je suis beaucoup autodidacte. J'apprends énormément. Je vais sur les applis de montage, etc. Je fais tout seul et je me dis ça s'apprend tout seul. Entre parenthèses, avec quelques petits tutos par-ci par-là, mais oui.
On va en reparler juste après, mais je propose qu'on s'écoute tout de suite une musique que tu as choisie.
Ouais.
C'est Jamais toi de R2.
La puchka, mon pote.
Mon bébé descend, y'a le gamin sans bas. Vu là d'où je viens, je peux pas baisser les bras. Un petit goût amer, je sais pas si tu vois. Ne te mélange pas, ils sont chelous là-bas. La madre m'a dit, fils, la vie, c'est les choix. Moi j'ai compris les bails sur le tas. Pourquoi j'ai l'impression d'être grave en retard? On comprend les cutrins, on tire dans le tas. Mais pourquoi mon cœur il me fait mal quand t'es pas là? Quand t'es pas là, mon cœur je le sens pas. Solo dans la ville, j'ai fait les 100 pas. Solo dans ma vie, ah. C'est moi le chef, le bébé sans moi, donc est-ce moi le bien positionné? Combien de blèmes projets tu additionnes? Si tu ne veux plus, continue sans moi. Je ressens le besoin de m'isoler.
Le besoin de m'isoler.
Le besoin de m'isoler.
Le besoin de m'isoler.
On a repris les bails, repris les bails. On fait la maille, donc on est d'attaque, on est perdu de taille. Le temps il passe, tu me manques de moins en moins. Et si je dois faire un choix, tu sais qu'en vrai ce sera jamais toi. Ça fait mal de chien de s'appeler si moi qu'on aimait autrefois. Et si je dois faire un choix, tu sais qu'en vrai ce sera jamais toi. Je lève les mains vers le ciel.
ciel en espérant qu'ils répondent. Seul dans la chambre, je compte et je compte et je recompte. Maintenant la bitch, elle veut pépon, veut pépon. Je t'appelle, c'est que quand ça t'arrange. En attendant dans mon dos, je suis posé dans la caille. La difficulté m'a pas sorti des rails. C'est ton gars sûr qui veut pas que tu grailles. C'est ton gars sûr qui veut pas que tu grailles. C'est pas que t'es peur de passer pour un con. C'est quand t'abandonnes que t'as touché le fond. Au début, ils me prenaient pour un fou. Maintenant, ça demande du combien sur le compte. D'où on vient? On n'oubliera jamais d'où on vient. À Calerma, on se connaît bien. Et tout ce que j'ai fait, c'est pour les miens. Pour les miens, moi. Je ressens le besoin de m'isoler. Le besoin de m'isoler. On a repris les bails. Après les bails, on fait la maille. Donc, on est d'attaque, on est pas plus de time. Le temps il passe, tu me manques de moins en moins. Et si je dois faire un choix, tu sais qu'en vrai ce sera jamais toi. Ça fera mal de chien de s'appeler si ma connaît mes autres fois. Et si je dois faire un choix, tu sais qu'en vrai ce sera jamais toi. Oh la la la, 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 ce sera jamais toi.
Alors Valentin, pourquoi t'as voulu choisir cette musique en particulier? Tu peux juste dire que tu l'aimes bien.
Ah, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. C'est un artiste que j'écoute pas mal en ce moment. Après, il n'y a rien d'attache spécifique, mais c'est vraiment, j'écoute ça dans la voiture, donc je me suis dit, allez.
Ça te motive pour le foot aussi?
Ouais, moi j'aime bien, j'en parlais l'autre jour avec je sais plus qui, mais moi quand je mets des stories, souvent je mets des musiques qui ont un rapport. Qui ont un message entre parenthèses derrière. Et là, il disait, j'ai besoin de m'isoler. Et des fois, j'ai besoin de m'isoler, de réfléchir, ou de m'isoler des réseaux sociaux, de mettre un peu de côté, etc. Donc, ouais, c'est pour ça.
Ah ouais, tu trouves que c'est important parfois de faire des pauses quand même?
Ouais, c'est important
c'est énergivore,
se retrouver. Ouais, c'est important. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Un gros engouement, on ne fait plus beaucoup de vues. Est-ce qu'on va faire des vues? Est-ce qu'on va faire des stats? Ça rentre dans un engrenage. Et c'est vrai que ouais, des fois, on a besoin de m'isoler, de penser à autre chose, même de couper avec le foot, couper avec le monde, ça fait du bien.
Et
partir au Portugal, se ressourcer.
J'imagine que rencontrer des grosses stars aussi, ça doit un peu chambouler une vie.
Ouais, c'est une petite pression aussi, c'est une petite pression. C'est vrai que des fois, je me dis, ah ouais, tu rencontres quand même des gros joueurs, mec, donc fais pas n'importe quoi, soit une petite pression. Ouais. Mmh. Petite
pression. Et c'est quoi la rencontre qui t'a le plus marqué?
Alors là, franchement, on va dire logiquement les trois portugais du PSG, les quatre même, parce que j'ai fait Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos et João Neves. Ils n'étaient pas ensemble. J'ai eu les trois, Vitinha, Gonçalo et João, mais Nuno d'un autre côté. Ça, c'était vraiment ma rencontre coup de cœur, parce que c'est des Portugais, parce que Vitinha joue à Porto, parce que c'est des mecs qui jouent pour le Portugal. Donc c'est vrai que j'étais vraiment content. Et après, humainement, c'était Saïd Benrahma qui joue là actuellement en Arabie Saoudite. C'était un gars vraiment cool, très drôle, lui-même en fait. Et c'est bien d'avoir ce relationnel et de voir aussi que les joueurs pros, ils sont, c'est des humains comme tout le monde, quoi.
Bah oui, c'est ça.
Ouais. Avec un petit plus quand même.
Oui.
Avec un petit plus, oui.
Et est-ce que t'as encore une rencontre de rêve aujourd'hui? Un joueur que t'aimerais absolument rencontrer, à qui t'aimerais poser des questions?
J'avoue que j'y réfléchis pas forcément. J'ai fait aussi Zidane, donc ouais, c'est vrai que j'ai fait des gros noms.
C'est pas mal. Hein.
Si je là, c'est un joueur que j'ai toujours kiffé, mais bon, il joue plus malheureusement, c'est Ricardo Quaresma.
Ouais.
Maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais non, c'est vrai que je kifferais. Je pense qu'il est hyper drôle et je pense qu'il est cool. Mais j'ai plein de projets qui arrivent là petit à petit. J'ai des joueurs que je vais rencontrer la semaine prochaine, je pars. Donc,
waouh!
Il y a plein de belles choses qui arrivent.
Et tu essaies de rencontrer plutôt des joueurs portugais ou français?
Nous, on est plus, du coup, avec ProDirect, on est plus vers la France. Donc, logiquement, quand on joue en Ligue 1, c'est des joueurs qui nous attirent. Et après, bien sûr. Vu que moi je parle portugais, espagnol, français et un petit peu anglais, ça aide. Donc dès qu'on a un joueur en Ligue 1 qui parle espagnol ou portugais, bon, c'est vrai qu'on essaie de les faire. Bon, là en l'occurrence les gars du PSG. Mais oui, on est plus vers la France ou des Français qui jouent en Angleterre, en Espagne. C'est plus pour nous.
Et tu disais du coup que tu as rencontré Vitinha, João Neves, Gonçalo Ramos. Ça a fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Quel a été l'impact pour toi, que ce soit sur les réseaux ou même humainement, en fait?
Bah, humainement, c'est quand je me dis, j'ai besoin de s'isoler, je me cale tout seul et je me dis, putain, Val, t'as de la chance quand même de ce que tu fais, profite. C'est pas tout le monde qui le ferait et je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient le faire. Mmh. Mais aussi, avec mon frère, j'arrive au Portugal, tout le monde me dit, mais c'est toi qui as fait la vidéo avec les gars. Ici en France, j'allais jouer un match de foot et les petits criaient, ouais, serein, serein, parce que dans la vidéo, on a fait une... ils ont pas compris ce que ça voulait dire serein en français, donc ils ont dit n'importe quoi, les gars. Mais c'est vrai que ça a eu un bel impact parce que quand je suis parti au Portugal, et même quand on jouait des fois à la play avec des gars, ils disaient, ouais, ah, mais c'est toi qui as fait la vidéo et tout. Donc, bon, tout le monde a su que c'était moi et c'est vrai que ça fait aussi plaisir. Après, je reste moi-même et c'est cool, quoi.
Et tu gardes les pieds sur terre.
Bien sûr, ça, franchement, je suis humain comme tout le monde. Les vidéos, tout le monde peut en faire. Après, chacun de tirer son épingle du jeu, mais oui, tout le monde peut en faire et je suis normal, quoi. Si les petits veulent, ils viennent me faire des photos avec moi, ça fait plaisir, bien sûr.
Oui, c'est sûr. Et comment est-ce que tu prépares ces rencontres?
Sans aucun stress, je les prépare bien parce que c'est beaucoup timé. Là, par exemple, oui. J'avais fait Mbappé, j'avais 1 minute 30 avec lui, donc c'était 1 minute 30 et pas 1 minute 31.
Donc, vaut mieux donc, que c'est ce soit lui qui parle.
Ouais, moi, je lui pose juste la question et après, vas-y, gère. Et donc, si c'est lui qui a un peu plus de temps, c'est lui qui a un peu plus de temps. Mais souvent, c'est beaucoup timé. Mm. Tout est timé. C'est des joueurs qui accordent leur temps, mais qui sont parfois, on va dire, tristes ou pas tristes. Chafouin, ils n'ont pas envie d'être là, honnêtement. Donc c'est vrai qu'il faut bien préparer à l'avance. Moi, j'écris tout dans mes notes, vraiment. Je répète, je me dis, allez, vas-y, hop, ça. Bon, des fois, il manque un peu d'eau dans ma bouche, donc je patouille un peu. Mais ouais, je time tout. Donc vraiment, quand t'arrives, le joueur, il est là, ça va, tu vas bien, t'as pas forcément le temps de rigoler avec lui.
Ouais.
Et après, c'est aussi... moi je sais qu'Mbappé ça faisait 1 minute 30 vraiment j'ai fini, il a dit, et c'est là que ça m'a fait plaisir aussi, il a dit c'est tout, genre t'as fini, et il voulait encore plus de temps. Après voilà, c'est comme ça, mais je le prépare d'une manière, je me dis j'ai tout sur mon téléphone, je sais ce que je dois dire, je sais ce que je dois faire, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins.
Voilà, et comment tu choisis les thématiques, surtout quand t'as qu'une seule question en fait?
Comment je choisis les thématiques? Je me pose, je réfléchis, je me dis qu'est-ce que les gens ils ont envie de voir sur les réseaux sociaux des joueurs de foot. Parce que on voit des joueurs de foot à la télé courir derrière un ballon, mais on ne sait pas ce que réellement ils pensent ou voilà leur vie à eux, quoi.
Oh, on les connaît pas trop humainement.
Ouais,
en vrai.
C'est ça, bien sûr. Moi, j'essaye de le transmettre sur les vidéos et de dire bah voilà, peut-être sur le terrain le mec il paraît un peu chiant, mais il est grave cool et voilà, sentez-le derrière la vidéo, c'est ça aussi qui est cool.
Ouais, rappeler qu'il y a un être humain derrière la star du foot.
Bien sûr, voilà, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui critiquent, qui disent ouais, lui un tel, mais derrière moi, c'est des humains, c'est des personnes qui jouent au foot, qui, ok, ils ont le talent pour jouer au foot, s'ils sont là, ils sont là pour quelque chose et c'est des humains après tout, hein. Ils sont franchement, ouais.
Ouais, franchement, c'est trop bien ce que tu fais. Bravo. Et on va faire une petite pause. Merci pour tes réponses pour l'instant. On continue d'ici 5 minutes cette conversation. On va parler de ta création de contenu, comment tu fais un peu plus techniquement et de tes projets à venir. Mais tout de suite, on s'écoute une autre musique que tu as choisie. C'est la session Bizarre Rap de Daddy Yankee. Tout de suite sur Radio Alpha.
Para
Stade de Chponton sur Radio Alpha, nous sommes toujours en interview avec Valentin Football. Alors du coup, tu crées du contenu foot sur les réseaux sociaux, ça je pense que si quelqu'un ne l'a pas compris, il y a un problème. Du coup, tu as ton travail qui est aussi de la création de contenu foot et ton compte à toi. Ouais. Sur ton compte Valentin Football, du coup, tu travailles seul.
C'est ça.
Avec l'aide de ton frère.
Bien sûr, des fois, je lui demande et je le motive un peu pour qu'il vienne avec moi. Mais là, ces derniers temps, c'est vrai que je fais tout seul. Donc déjà, moi, tout ce qui est montage, même si mon frère il est là avec moi, c'est moi qui gère les montages, etc. Mais oui, je fais presque tout seul, on va dire.
Et comment tu réalises les montages pour ceux que ça intéresse? Je sais qu'il y a plein de jeunes qui veulent se lancer sur les réseaux, n'est-ce pas?
Ouais, bien sûr. C'est simple. Hein. Après, comme moi je l'ai dit, je suis beaucoup autodidacte, donc j'ai CapCut, hein, logiquement, CapCut Pro, et voilà. Après, je fais pas des vidéos qui nécessitent un montage énorme. Vraiment, je fais des vidéos très simples de conseils. Beaucoup de conseils, vu que je suis éducateur dans un club de foot, etc. Donc, je donne des conseils pour les jeunes qui en ont besoin et qui ont envie de réussir dans le foot ou qui ont envie de jouer au plus haut niveau que c'est possible. C'est pas forcément besoin d'être professionnel, mais voilà, je vais sur CapCut, je mets les vidéos, montage simple, j'écris et voilà, je balance tout.
Pas oublier d'enlever le CapCut à la fin, surtout.
Bien sûr, ça c'est primordial, sinon c'est la honte. mais ouais, c'est ouais.
Et comment est-ce que tu prévois ton contenu? Est-ce que c'est au feeling ou est-ce que c'est quelque chose de planifié où tu fais des vraies recherches derrière?
Moi déjà, je suis sur un... dans ma tête, je me dis qu'il faut que je poste tous les 2-3 jours maximum. Si je poste pas 3 jours, je me gratte les veines et je me dis, Val, t'as pas posté, il y a un problème.
Okay.
Donc, bien sûr, les réseaux sociaux, il n'y a pas de magie. Hein. Si on veut avoir des stats, il faut être régulier, très régulier, poster tous les jours, poster tous les 2 jours. Et derrière, la recherche, elle est simple. Hein. Je réfléchis à un thème et après, je me dis, qu'est-ce que je peux dire sur ce thème? Et voilà, les idées, elles fusent. Et petit à petit, ça vient.
Donc même si ça paraît léger de l'extérieur, vu que c'est les réseaux sociaux, t'as quand même une discipline?
Ouais, une discipline, c'est important. Tout ce qu'on fait dans la vie a besoin d'une discipline, je pense. J'en parlais tout à l'heure avec les petits, je leur ai dit, dans la vie, il faut toujours être meilleur. Si aujourd'hui on est bon, demain, il faut qu'on soit encore meilleur. Et sur les réseaux sociaux, dans la vie, dans le taf, etc., il faut être meilleur, il faut une discipline, c'est important. Et moi, j'essaie d'avoir cette discipline. Comme je vous le disais déjà avant, à un moment donné, j'ai voulu arrêter les réseaux sociaux parce que je faisais plus de statistiques. Et quand on regarde derrière, on est déçu, on fait pas de vie, etc. Mais j'ai réussi à me dire, allez, pousse-toi, essaye un nouveau truc. Et ça a fonctionné. Donc je me suis dit, Val, maintenant, tous les 2 jours, tu postes. Tous les 3 jours, si tu postes pas, il y a un problème. Donc discipline, rigueur, travail. C'est les mots qu'on doit retrouver dans la vie de tous les jours, hein, clairement.
C'est vrai. D'ailleurs, en parlant des petits que tu coaches, on a fait un peu nos recherches, on a regardé tes vidéos. T'es dur, hein?
Ah, ouais. Je suis dur, ouais. mais croyez-moi, il y a pire que moi. Franchement, je suis pas l'un des pires. J'essaye d'être quand même assez cool. Bien sûr, après, il y a des moments où vraiment on trouve que ça va pas et il faut aussi crier parce que les enfants ils partent vite dans tout et n'importe quoi. Les parents, s'ils mettent les enfants au foot, c'est pas pour qu'on fasse de la garderie aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. S'ils veulent faire de la garderie, ils ont l'école et voilà. Si les petits sont là, c'est qu'ils ont pour ambition de jouer au football classiquement, pas forcément de signer professionnel, mais de travailler quelque chose. Nous, on est là pour leur apprendre. Moi, je suis bénévole. Je vais pas là-bas pour. Et donc, c'est vrai que des fois, il y a des petits qui prennent la tête et je me dis, il faut que je crie aussi. C'est pas crier et insulter. Faut pas tout méfier. Faut être assez pédagogue. C'est des enfants. Il y a des parents qui sont là. Faut faire attention à ce qu'on dit. Moi, je fais attention à ce que je dis aussi, attention, et c'est important de le faire. Mais là, ça se calme, les résultats ils viennent, donc c'est vrai qu'on est bien, on gagne. Donc c'est vrai qu'il n'y a plus forcément besoin de crier, les petits sont contents, et voilà, c'est le plus important.
Oui, il ne faut pas oublier quand même que c'est un sport avant tout, et que ce n'est pas juste tout, se dépenser et courir après une balle.
Bien sûr, et avant tout, à cet âge-là, moi je coach des U13, donc c'est des petits qui ont 12 ans, à cet âge-là, il n'y a pas de compétition. On perd, on gagne. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, la rigueur. Elle est importante. Moi, je viens pas pour que les petits soient là en train de jouer à s'insulter ou à se mettre des balayettes ou à voilà. Je viens, je prépare quelque chose. Faites-le sérieusement et après on peut rigoler. Moi, je leur dis, je suis le premier à leur dire.
Bien sûr.
Les garçons, on peut rigoler. Vous pouvez rigoler avec moi. Je suis pas un monstre. Mais quand on est sur le terrain, jouez. C'est tout.
Discussion entre coach, les deux tirants.
Pas le même sport, mais ouais. C'est vrai.
Dans tous les sports.
Oui,
clairement.
Les
coachs, ils sont là pour ça, franchement. C'est important.
Clairement. Et aujourd'hui, est-ce que tu vis de la création de contenu? Ton taf, en soi.
C'est mon taf, donc oui, je vis de la création de
mais
contenu,
mais pas de
clairement.
Ton compte à toi.
De mon compte à moi, bien sûr, j'ai un petit revenu qui est moindre. Et je le fais vraiment pas pour l'argent. Moi, j'aurais pu très bien, je le dis souvent, même à mes parents, j'aurais pu très bien me lancer sur les réseaux et pas trouver de taf et pas trouver un CDI ou un CDD ou autre. Moi, j'ai préféré m'assurer mon arrière et trouver un CDI et voilà, être dans mon CDI, bosser pour eux et derrière occuper les réseaux sociaux et s'occuper de mes réseaux sociaux à moi en me disant je peux joindre les deux, l'utile à l'agréable et voilà. Mais oui, je vis des réseaux sociaux, bien sûr.
Mais est-ce que tu aimerais vraiment vivre que ton compte soit vraiment ton revenu principal et que tu aies ta micro-entreprise, etc., comme on voit chez les grands.
J'ai plein d'idées, donc je vous avoue que...
T'aimerais bien, quoi?
J'aimerais, bien sûr. Après, comme c'est éphémère, les réseaux sociaux, donc là, j'ai 24 ans, c'est cool. Je suis dans la hype, les petits kiffent, tout le monde kiffe. À 35 ans, je vais peut-être pas être sur les réseaux sociaux en train de faire des vidéos, ou à 40. Donc, bien sûr, c'est possible, il y en a qui le font. Je dis pas que c'est pas bien de le faire, mais voilà.
C'est pas safe.
C'est pas safe. Et je me dis... j'ai vraiment envie d'essayer de devenir un coach d'une équipe de foot, si c'est possible, de passer mes diplômes, d'être préparateur physique, en tout cas travailler dans une enceinte sportive, bien sûr professionnelle, parce que du coup là c'est là où je gagnerai ma vie. Mais si pourquoi pas les réseaux sociaux, ça perdure et que ça m'ouvre plein de portes et que à 40 ans je peux encore en vivre ou je peux en vivre, bien sûr que je le ferai, bien sûr.
Oui, parce que au final ça te fait quand même trois vies en une, quoi.
Ouais.
Ton CDI, ta création de contenu et tes enfants.
Ouais, je suis pas tout le temps à la maison, je suis pas souvent à la maison, ouais. Je vois pas beaucoup mes parents, malgré que je vis avec eux, je les vois pas beaucoup. Et des fois, je me dis, c'est pour ça, c'est important de se calmer, quand il y a les vacances, j'essaie d'en profiter un maximum. Mais ouais, bien sûr, c'est trois en un et il faut tenir le rythme parce que c'est soutenu. C'est vraiment soutenu et il faut avoir l'envie et le kiff de le faire, quoi.
Ouais, c'est ça, parce que ça peut être très fatigant. La création de contenu, c'est un vrai travail, hein, pour ceux qui se posaient encore la question.
Ouais, bien sûr.
Et quel est ton rêve ultime avec la création de contenu? Parce que du coup, le foot, tu nous as déjà dit un peu.
Ouais, mon rêve ultime, c'est faire un maximum de joueurs, de pourquoi pas un jour travailler pour une marque aussi, hein, d'être créateur contenu pour un Nike ou un Adidas, s'ils m'écoutent, non, je rigole, je les connais, donc. Mais oui, pourquoi pas. Si je peux être créateur de contenu pour une grosse marque, je le ferai avec plaisir. Si je peux travailler avec une grosse marque, je le ferai avec plaisir. C'est la vie, elle est faite d'opportunités. À moi de les saisir et il faut qu'elles viennent aussi. Moi là, ProDirect, l'opportunité, elle est venue dans mes DM Insta. J'y croyais pas et au final, ça m'a fait plein de découvertes. Et donc, on verra.
Et être community manager du FC Porto, alors?
Ça, c'est ça, mais le truc, c'est qu'on en voudra toujours plus. Donc, si je suis community manager Porto, j'aurais envie d'être coach ou président ou préparateur physique. Ouais, franchement, bien sûr.
Coach du FC Porto?
Ah, ça serait vrai, je pense.
Tu penses que ça te semble atteignable?
Je me laisse pas de limite, Si ça doit être atteignable, moi, en tout cas, quand je fais quelque chose, je le fais toujours à 100%. Je le fais jamais à 99%. Mais c'est quelque chose, comme je le dis, la rigueur, etc. Si je dois le faire à 100%, si là, demain, je dois partir au Portugal, passer mes diplômes d'entraîneur et tout donner pour être coach du Porto, je le ferai. Et je pense qu'il y en a un derrière qui sera le plus heureux du monde, mais je le laisserai dans les tribunes, vous inquiétez pas, parce que sinon, il risque de faire trop de dégâts. Mais bien sûr qu'à 100%, j'essaierai, en tout cas, je vais tout faire pour réussir, hein, bien sûr.
Et quels sont tes futurs projets? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous dire?
Sur projet, qu'est-ce que je peux vous dire?
La semaine prochaine, t'as interviewé quelqu'un, tu peux nous dire qui ou pas? Un indice?
Ouais, c'est un joueur brésilien, bon, je peux vous le dire, c'est Vinicius Junior.
Waouh!
Je vais à Madrid pour le lancement d'une de ses nouvelles paires. Et
incroyable!
Du coup, ouais, c'est cool. Je pense que c'est cool. Et après, dans le futur, à voir. J'ai pas réellement pas forcément de projet. Moi, en termes perso, avec mes réseaux, continuer à poster, continuer à faire, à créer de l'engouement autour de moi et bien sûr des collabs, etc. Quoi.
Et donc, ton frère qui est avec nous depuis tout à l'heure, c'est MCGY, qu'on a déjà reçu sur tes pitades de Chponton. Est-ce que tu es fier de Valentin aujourd'hui?
Bien sûr, on fait en sorte qu'il garde cette ligne directive et qu'il soit persévérant sur le long terme pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Comme il le dit, et je le rappelle et on en parle souvent, aujourd'hui les réseaux sociaux c'est éphémère. On peut être au top de la hype et demain complètement disparaître et passer à travers tout. c'est dur de se renouveler. On essaye toujours de faire en sorte qu'il puisse se renouveler, qu'il puisse créer des nouveaux contenus. J'essaye un maximum de l'aider. C'est sûr que c'est pas facile, hein, parce que je bosse à côté, hein, mais c'est sûr qu'on essaye toujours de faire en sorte qu'il puisse aller de l'avant. On est prêt à je sacrifie de mon temps quand je vais faire des vidéos avec lui, etc. Je sacrifie de mon temps pour pouvoir aider, pour faire en sorte que ses contenus soient viables et qu'on essaye de faire un maximum. Après voilà, c'est lui, il est libre de lui-même. Nous on est là pour l'aider, pour lui donner les tips, pour des fois lui apporter ce qu'on peut lui apporter à notre échelle. Parce que moi je suis speaker, je suis pas dans le monde du foot, mais voilà, cette rigueur, moi j'ai été coach de foot. Cette rigueur, moi je l'ai eu en tant que coach. Cette rigueur, je l'ai toujours appris. Il parlait de coach dur. Je suis bien plus dur que lui. Pas loin de la dictature. Mais voilà, cette rigueur, on essaie de l'inculquer. Et c'est quelque chose que tous ces coachs qu'il a eu lui ont inculqué. Et cette rigueur qu'on reçoit dans le football, elle sert pour la vie. Elle sert pour tout ce qu'il peut faire. Donc non, c'est hyper important. Maintenant, à lui de s'en donner les moyens. Ça, c'est, on ne pourra pas faire plus. De toute façon, moi, il y aura une limite que nous, on ne pourra pas franchir. Et c'est lui, justement, dans la vie, il n'y a aucune limite, on peut tout est possible, à lui de faire le nécessaire.
Mais Valentin, toi, tes frères, t'es fier aussi de ton
bien
frère.
Bien sûr, je suis fier de lui.
Il travaille beaucoup en MC Dubaï aussi. Ouais, hein. On le retrouve bientôt sur Paris. Hein.
On se l'est dit l'autre jour, hein. C'est vrai qu'on se le dit pas forcément, mais on se l'est dit l'autre jour. C'est un plaisir pour nous deux de partager toutes ces passions-là, que ce soit le foot, que ce soit la musique. Moi, des fois, quand je peux, je vais aussi avec lui. Le foot, c'est la même chose. Porto, c'est la même chose. On est fiers l'un de l'autre, bien sûr. On se le dit pas forcément. On se chamaille des fois, mais c'est le côté portugais du jeu. C'est comme ça, et le plus important, c'est que nos parents ils soient fiers de nous. Moi, je sais que mes parents ils sont fiers de nous, et c'est le plus important, de rendre fiers toute la famille et de montrer que de quoi on est capable, quoi.
Et on les embrasse, vos parents.
Bien sûr, écoute, maman, gros bisous, maman, je t'aime.
Et pour terminer, si tu voulais laisser un message aux jeunes qui nous écoutent, une façon dont les gens doivent se rappeler de toi, selon toi, au-delà du fait qu'ils doivent aller suivre tes réseaux sociaux, évidemment, Valentin Football.
Bien sûr, de me suivre sur les réseaux sociaux, mais après tout, c'est de croire en eux. Je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Bon, je ne vais pas forcément parler, mais croire en eux, ayez des rêves. C'est bien d'avoir des rêves, de croire en ses rêves et d'essayer d'atteindre ses rêves et de se donner les moyens. Il faut se donner les moyens. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on a 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans qu'on ne peut pas se donner les moyens pour faire quelque chose et pour aimer et pour se donner à 100%. Donc c'est ça, c'est de croire en eux et de voilà, c'est le plus important.
C'est super. Merci beaucoup, Valentin, pour tes réponses.
À vous.
Tu restes avec nous maintenant que tu es là.
Bien sûr.
Restez avec nous. Nous sommes avec vous donc jusqu'à 16h. Et juste après, ce sera le moment de l'actu sport avec Liliana. Peut-être que vous pourrez compléter vu que vous êtes là.
Allez.
Et en attendant, nous allons écouter Mon bébé de RN Boy.
Yes.
Que tu as choisi aussi.
Valentin, carré. Ça, je suis en mode gros. Je suis en mode. Les autres, on va dire mon bébé. Dis à mon bébé, dans la zone t'es pas zing à mon bébé. Dis à mon bébé, quitte la perche, tiens le truc, maintenant qu'est-ce qu'il y a? Que je tape plus grosse que ton PIB. J'ai peiné dans la zone, je l'ai pas évité. J'suis pull up, yeah, heavy day. On se connaît à peine, elle veut fermer les volets. Dès le premier date, elle fait déjà la folie. Elle va s'attacher, elle sait que je vais déconner. Tape dans ma côte, tout ce que tu veux, je vais payer. Ni d'espagnol, donc je parle en hola. Bébé, des amants, et la seule, je les connais, c'est des petits. Bébé, t'inquiète pas, story, faut éviter. Faut pas s'afficher. Dans la zone, mes gars savent pas que Rena t'a son bébé. Dans ma tête, j'ai déjà mon bébé. Ça c'est mon bébé, y'a que moi qui sais c'est qui mon bébé. J'te l'ai dit c'est mon bébé, j'aime pas trop quand on parle sur mon bébé. C'est la seule qui m'a aidé, y'a que moi qui sais c'est qui mon bébé. J'te l'ai dit c'est mon bébé. Tu me laisses pas sinon qui va t'épauler. Si ça pétait je vais bientôt décoller. J'avoue je suis bête, quelquefois j'ai déconné. Elle m'a dit RN faudrait que t'arrêtes de sonner. Doucement tu sais qu'on a tout le temps. J'ai quitté mon ex elle est pas comme toi. Elle sait qu'on a tout elle est pas content. Pipi elle mais c'est pas comme toi. J'ai échoué donc le refrain. Deuxième fois s'il faut claquer mes dalles. Mais tu restes où la copine avait un contrat. Pas la sauce 5 étoiles. Story faut éviter. Ça c'est mon bébé, y'a que moi qui sais c'est qui mon bébé. J'te l'ai
dit c'est mon bébé. J'aime pas trop quand on parle de mon bébé. C'est la seule qui m'a aidé. Y'a que moi qui sais c'est qui mon bébé. J'te l'ai dit c'est mon bébé. Ça c'est mon bébé. Y'a que moi qui sais c'est qui mon bébé. J'te l'ai dit c'est mon bébé.
Agora, no Tempestade 2.1.
Tempestade de Chponton sur Radio Alpha, c'est le moment de l'actu sport avec Liliana.
Alors, on commence cet actu sport par une très belle performance de la sélection portugaise de handball qui signe le meilleur résultat de son histoire au championnat d'Europe. Les Portugais ont battu la Suède 36 à 35 et terminent la compétition avec une remarquable cinquième place. En cyclisme, Antonio Morgado a pris une excellente deuxième place au Trofeo Serra Tramontana, épreuve comptant pour le Challenge cycliste à Majorque. Autre bon résultat portugais, Afonso Eulálio termine 5e de la Alula Tour en Arabie Saoudite à seulement 29 secondes du vainqueur Jeanne Christen. En tennis, succès portugais à Porto, les sœurs Mathilde et Francisca Jorge ont remporté le W75 ITF de Porto en duo féminin en s'imposant en finale 2-7-0 face à l'Ukrainienne Nadija Kolb et la Slovène Kristina Novak. En athlétisme indoor, Auriol Dongmo a pris la deuxième place du meeting de Nordhausen en Allemagne avec une lancée à 19,02 mètres. Une performance qui lui assure sa classification pour les championnats du monde en salle en mars en Pologne. Toujours sur piste couverte, Isaac Nader a marqué les esprits en remportant le 3000 mètres au
Les noms sont compliqués aujourd'hui. Hein.
Je vais y arriver. Au Sersundor Gala, avec un temps de 7 minutes 38 secondes et 17 centièmes, établissant un nouveau record national. Enfin, Salomé Afonso a elle aussi battu un record national sur 1500 mètres en salle avec 4 minutes, 1 seconde et 98, terminant 4e de la course en validant sa qualification pour les mondiaux en salle. En judo, Diogo Bric monte sur le podium de l'Open européen de Sofia en Bulgarie avec une médaille de bronze dans la catégorie plus 100 kg. En padel jeune, João Simões et Francisco Sá ont terminé deuxième du FIP Padel Promises Fastweb à Pérouse en Italie après une défaite en finale dans la catégorie moins de 14 ans. Excellente semaine pour le cyclisme sur piste portugais. Yuri Leitão est devenu champion d'Europe de l'Omnium à Konya en Turquie. Il a également décroché la médaille d'argent en Madison associé à Diogo Narciso, sacré vice-champion d'Europe. Et je finis par le futsal. Le Portugal a battu la France 4-1 et s'est qualifié pour la finale du championnat d'Europe de futsal où il affrontera l'Espagne ce soir à 19h30. Malgré une frayeur en début de rencontre, l'équipe de Jorge Brás a parfaitement contrôlé le match et s'est imposée avec mérite, signant la 16e victoire consécutive au championnat d'Europe et disputant la troisième finale d'affilée. Des chiffres qui confirment la sélection portugaise comme l'une des meilleures équipes en futsal du monde. Ça s'est vu sur le terrain. Moins habituée à ce niveau, la France a mieux entamé la rencontre et a réussi à imposer son jeu plus physique, ouvrant le score dès la 5e minute par Touré. L'action ne semblait pourtant pas dangereuse, mais Bernardo Paso a mal négocié son intervention et s'est retrouvé en difficulté. Le gardien portugais est cependant monté en puissance et a fini par être l'un des grands artisans du succès. Il a repoussé les rares offensives françaises et juste avant la pause, le score s'est renversé. Diogo Santos, 18e, et Tomás Paso, 19, ont marqué le numéro 19, je dis le même, mais ont marqué à quelques secondes d'intervalle, à la suite de deux corners presque identiques. Ces deux buts, juste avant la mi-temps, ont donné plus de sérénité au Portugal, qui a su gérer la seconde période avec sang-froid. Au retour des vestiaires, la réaction française s'est fait sentir, obligée de courir après le score, mais le coup dur est arrivé à la 28e minute, quand Eric a initié et conclu une contre-attaque. Le 3-1 a poussé la France à jouer en 5 contre 4, mais les idées ont manqué et Bernardo Passo, d'un tir de gardien à gardien, a mis un point final au match. Le ballon a heurté le poteau avant que Wedora, en tentant de dégager, ne marque contre son camp pour le 4-1. C'était la fête pour les Portugais en Slovénie, mais on va voir si désormais, face à l'Espagne, la sélection réussira à décrocher un troisième titre consécutif.
Merci Liliana, nous sommes avec vous jusqu'à 16h. D'ici 5 minutes, ce sera les bons plans, mais tout de suite, on s'écoute une nouveauté lusophone, O Amor é Tudo, de Aurora Pinto et Maninho.
O caminho pra casa é tão longo, e o dia foi o fim do mundo, mas de longe, visto da lua, somos só luzes, só luzes. A chuva não molha por dentro, e a pele seca com o vento. E de longe, no final da rua, somos só luzes, só luzes. Porque o amor é tudo, ai, ai, ai.
Então talvez, mas só talvez eu tenha razão. O amor é tudo e tudo o resto é distração. Dessa vez, mas só dessa vez vou ficar à espera, pra ler a vida como se o tempo fosse um poeta. Ai, ai. Traz as memórias nos bolsos das calças. Se sofre da cura ninguém sabe. Se é o que nos une, faz delas casa. A porta pro amor é saudade.
Faço minha casa na poesia, e rimo minhas mágoas com a cura. Canto a caligrafia enquanto a melodia segura. Minha beleza com a sua, minha certeza com a sua. É isso aí. Porque o amor é tudo. O amor é tudo e tudo o resto é distração. Dessa vez, mas só dessa vez vou ficar à espera, pra ler a vida como se o tempo fosse o poeta.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha, l'émission de Themestadt de Sponton touche à sa fin, mais avant de vous laisser, voici quelques bons plans pour accompagner votre semaine. Tout d'abord, n'oubliez pas d'aller voter pour le second tour des élections présidentielles portugaises. Vous pouvez le faire aujourd'hui et demain. Et Anna Sara.
Oui, on en reparlera. Sinon, pour rappel, la Lusitana Creme est gratuitement à disposition ce dimanche pour permettre aux habitants de l'Oise d'aller voter au consulat du Portugal, donc à Paris, avec en plus un moment convivial autour d'un repas. Une belle initiative citoyenne et solidaire qui montre encore une fois combien les actions locales peuvent faire vivre la démocratie et le lien social.
Exactement, mais nous, vraiment, n'oubliez pas d'aller voter et renseignez-vous s'il y a des initiatives comme ça autour de vous. Cap Majan est de retour avec son forum de l'emploi annuel. Rendez-vous le 18 février au Consulat Général de Paris de 9h à 13h, puis de 14h à 16h sur rendez-vous. Vous pouvez vous inscrire sur le site de Cap Magellan. Rendez-vous aussi le 19 février de 10h à 17h au Parc des Expositions de Montreuil pour le Salon Paris pour l'emploi des jeunes. L'entrée est libre. Pour les événements à venir, Lionel Cecilio se représente toujours à Paris pour sa pièce La Fleur au Fusil, mise en scène par Jean-Philippe Daguerre. Vous pouvez le voir les lundis 21h, mardi 19h et samedi 15h au Théâtre Comédie Bastille jusqu'au 29 juin. Le concert de David Carrera, c'est la semaine prochaine, le 14 février au Grand Rex. N'oubliez pas de prendre vos places, nous on y sera. Et le 21 février à l'Accor Arena, vous pourrez aller voir les Kalema pour leur grand show parisien. Le 21 mars, le Portugal Comedy Club débarque à la salle Vasco de Gama. À partir de 19h, vous avez accès à un food truck portugais. Puis le stand-up commencera à 21h. Mais la nuit ne s'arrête pas là, puisque de 22h30 à 1h, la fête continue avec PDM, DJ Axe et un DJ qui est ici avec nous, MC DY. Des artistes donc que Themstadt de Spondon connaît bien. Prenez dès à présent vos places, ça va s'ambiancer, non ?
On va faire en sorte. J'espère que vous avez le cardio, parce que le cardio, je l'ai toujours. Hein. On se voit pour le Portugal Comedy Club avec DJ Axe et DM.
Le 21 mars, ici à Radio Alpha, à la salle Vasco des Gamma. Toutes ces informations sont à retrouver sur le site de Cap Majan et l'agenda Nuzo. N'oubliez pas de suivre Themstadt de Chanton et Cap Majan sur les réseaux pour ne rien rater. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Valentin. Merci MC DY.
Merci à vous. Ouais.
On n'oublie pas de vous suivre tous les deux sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez les rappeler.
Vas-y.
Ah, honneur à moi. Non, bah, moi, c'est Valentin Football, Football Valentin. C'est TikTok, Insta, YouTube, partout.
Et moi, bah, MC DY, MC, plus loin, DY. Posez pas la question de pourquoi le DY, hein, parce qu'à chaque fois, on me la pose. Mais voilà, MC DY ou MC DY Music, vous trouverez sur Insta, TikTok. Et ça suffit, hein, c'est très bien comme ça. Quoi.
Et est-ce que vous voulez laisser un dernier petit mot, des petites dédicaces, ta papa, maman, peut-être?
Bah, dédicace à personne, fallait être là depuis le début. Non, en vrai, toutes les personnes qui m'écoutent et
depuis
voilà.
Depuis le temps que j'attends que quelqu'un sorte cette ref.
Nah, je t'ai obligé, je suis désolé. C'est les réseaux sociaux, c'est ce que j'avais. Non, bah, moi, c'est pas forcément dédicace, mais juste remercier, bah, déjà vous pour l'accueil. Ça fait énormément plaisir. C'est pas ma première radio, donc c'est cool. Et dédicace à toutes les personnes qui m'ont écouté aujourd'hui. Je vous aime tous et voilà, ça fait plaisir. Et dédicace à mon frère aussi qui est là, qui me suit partout.
Et à toutes les personnes, qui le suivent.
Ouais, merci beaucoup.
Voilà, c'est hyper important, qui suivent depuis le début. Et pensez vraiment à vous abonner parce que c'est hyper important aujourd'hui. Les créateurs de contenu, les artistes, etc. Sans les personnes, les fans, etc. On n'est rien. Donc vraiment, c'est hyper important et merci à tous.
Merci, merci beaucoup.
Abonnez-vous aussi à Themstadt de Chanton et Cap Majan.
Bien sûr.
Mettez la petite cloche.
Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine de 14h à 16h avec un nouvel invité. Tout de suite, je vous laisse avec Quat de Fevlay, de Slogy et Plodigio. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao.
Bonne semaine.
Bisous la famille.
Nem abri a porta, soltei do carro. Escapotável na porta, nunca abri a porta porque a capota tá aberta. O inestimável na frota, um fit meu com Jota, ninguém batota na certa. Guita, tu falas com cota, Santander, eu falo com toca. Camisa 7, ninguém me para num canto. Crucifixo, touro, cara de um santo. Faço o guita, é claro, cara de um branco. Cara preta, hoje é a cara de um banco. Dizem que a cara diz tanto. E eles com cara de espanto. E a FS mais cara e distante. É claro, isso tanto.
Traga a família de volta num jato. Na caneta que assina o contrato, yeah. A vida lisa como a cena não dá pra evitar, yeah. Queima os barcos, estou na cena e tudo iluminado, yeah. Tô iluminado, entrando no quadro do fevereiro. Furar o meu fuleiro. Se a vida é muito curta, bagar a morrer o dia inteiro. Então falo tudo que trago no peito. Casa me dá respeito. Se a vida é muito curta, bagar o dia inteiro. Tô entrando no quadro do fevereiro. Furar o meu fuleiro. Se a vida é muito curta, mandar a morrer o dia inteiro. Então falo tudo que trago no peito. Casa me dá respeito. Se a vida é muito curta, mandar a morrer o dia inteiro. Estou entrando no quadro do fevereiro.
funi, si funi abrami. Cresce su ogni quel frutta del tuo giardino. Tanto dentro mi ispiro, se Deus me fez assim. Não é só uma teoria, há uma razão no fim. Yeah, yeah, yeah. Filho, filho, tenho pra mim. O sangue do meu sangue, não esqueço de ti nunca. Filho, filho, tenho pra mim. O sangue do meu sangue, não esqueças de mim.
O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado, das 14 às 16, só na Rádio que nos liga. Redifusão, sexta-feira, às 0 horas e podcast do site radioalfa.net. Tempestade 2.1.